Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver sur ce ring qui n'en est pas un si vous nous rejoignez seulement. Et merci si vous êtes là depuis le début à suivre notre invité Patrick Besson pour un recueil de ses chroniques parues pendant 10 ans dans Le Point. Chronique acide, intelligente, profonde. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? C'est le titre. Bonjour Stéphanie Loire.
Salut Philippe Vandel, je suis contente de vous retrouver.
Pareillement et bonne année Stéphanie, je ne vous l'avais pas dit encore. Et bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonne année à tous encore une fois.
Il le redit encore. Je vous dis bonjour Jean-Luc. Tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et là, c'est presque une sorte de double rattrapage, puisque c'est l'heure du bilan. Vous revenez sur les prédictions 2022 des meilleurs voyants.
Oui, Philippe, enfin des voyants. Faut pas s'emballer non plus. Moi, début 2022, j'avais été voir une voyante qui m'avait dit qu'à partir de la rentrée de septembre, je m'épanouirais auprès d'un être de lumière travaillant dans les médias. Et ben, c'est dingue. C'est à peu près à cette période que j'ai commencé à travailler avec Stéphane Bern.
Voilà. Double chute.
Je vous rassure, j'ai fait la même à Stéphane Bern avec vous, ouais. Philippe. Hein. Je le dis parce que sinon, je le connais, il va rentrer sa tête dans les épaules, il va bouder pendant toute la rubrique. Donc, on commence avec une des questions de l'année, le Covid ou la Covid. Enfin, le bordel qui nous a bien pourri la vie, mais qui, grâce au masque, nous permettait de ne pas nous laver les dents. Donc, j'ai écouté Laura chez Bruno Guillon.
La vraie bonne nouvelle, a priori, c'est que le Covid, je pense que cette année, c'est la fin. A priori, non. A priori, c'est la fin. A priori, le Covid, cette année, c'est l'année où on l'enterre.
Alors, note pour plus tard, je méfie des voyants qui mettent beaucoup trop de « a priori » dans leurs prédictions. Même elle, tu sens qu'elle n'a pas vraiment confiance en ce qu'elle dit. Elle doit être voyante astigmate. Mais c'est peut-être un tic de langage, parce que quand elle veut, Laura peut être beaucoup plus affirmative.
Laura, des questions pour 2022.
Allez.
Est-ce que Emmanuel Macron va être réélu président de la République ?
Alors, non, je crois pas.
Là, elle aurait dû mettre un « a priori ». Emmanuel Macron, qui n'était pas le chouchou des voyants en début d'année. Hein, la preuve avec la voyante de France 3 Grand Est. Quand on lui demandait qui allait au deuxième tour, elle ne voulait même pas donner de nom. Mais la description était quand même assez précise et un peu orientée.
C'est quelqu'un de masculin. C'est soit quelqu'un qui a déjà été président. Voilà, je n'ai pas cité de nom, d'accord. Où les gens ont été quand même fortement déçus.
Bon, elle n'a pas voté pour lui a priori. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y en a bien une qui a vu la victoire de Macron. Alors j'étais voir la clairvoyante Annabelle de Villedieu sur le plateau de l'émission Un éclair de génie.
Moi, Emmanuel Macron, j'ai beaucoup de doutes hein, parce que je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qui vont arriver. Moi, je pense qu'il va se présenter, mais après, je suis très dubitative sur le résultat.
Écoutez, je pense que c'est clair, Emmanuel Macron ne sera pas élu en 2022.
Oui, voilà. Hein,
arrêtez d'y croire, Philippe.
Il faut préciser que ce sont des sons qui datent d'il y a un an.
Ah, exactement, ça c'était en début d'année.
Exactement.
En début d'année. 2022, évidemment. On viendra sur le début d'année 2023 tout à l'heure. Ne soyez pas impatient, jeune fou. On reste sur les élections avec le grand Claude Alexis sur le plateau de TPMP.
Ah.
C'était toujours en début
idem,
d'année.
Idem.
Et pour lui, le second tour, c'était limpide.
Qui sera au second tour, Claude Alexis ?
Valérie Pécresse.
Je l'adore.
Alors j'aime beaucoup Claude Alexis, mais c'est à cause de gens comme lui qu'après Valérie Pécresse a fait la quête au feu rouge pour rembourser ses frais de campagne. Hein ? Elle avait trop pris la confiance. Fin 2022, il y avait également ce qui a fait signer nos petits cœurs, la Coupe du Monde de foot. J'ai donc été voir Yanis Adzaro, une pointure qui avait publié sur YouTube ses prédictions juste avant le tournoi et qui, lui, ne tournait pas autour du pot qu'on lui demandait qui allait gagner.
Je porterais plus mon choix sur une équipe plus italophone, donc c'est-à-dire soit le Brésil ou le Portugal. Donc vous avez vu, j'ai pas fait durer le suspense très longtemps là.
Ouais bah t'aurais peut-être dû. Parce qu'à part ça, il avait aussi prédit Neymar, meilleur joueur du mondial, le Sénégal, meilleure équipe africaine, et des performances en demi-teinte pour Kylian Mbappé.
Ouais.
Pas une dedans. Alors bien sûr Philippe, je sais que vous êtes un homme du futur,
oui.
Hein, donc je suis aussi intéressé aux prévisions 2023. Et là, c'est du premier choix. On n'est pas dans la boule de cristal en plexiglas. Non, des journalistes ont été interrogés des chamans au Pérou. Oui, Philippe. Là, on fait des prédictions à base de feu de coca, d'encens et d'ondes de serpents. Et grâce à tout ça, on a appris un truc incroyable.
Pelé est apprécié dans le monde entier. C'est un bon joueur de football. Nous souhaitons qu'il continue de nous accompagner, mais l'année prochaine, sa date est arrêtée.
Voilà, grâce à ça, on a appris que les chamans n'avaient pas la télé. Parce que Pelé est mort en 2022, et je pense que tout le monde est au courant à part eux.
C'est fou.
Et pour finir, hein, comme cette émission s'appelle Culture Média, j'ai récupéré les prédictions médias d'un des plus grands voyants de France, pour le coup récompensé par de nombreux prix internationaux, Sébastien Jutard. On l'écoute.
Je vois un homme pas très grand. Il porte des vestes et des t-shirts. Les Français l'aiment. Il pourrait même être choisi comme modèle pour la prochaine Marianne. Car oui, en 2023, Marianne ne sera plus genrée. Cet homme aux cheveux gris a un grand destin, mais à une condition. s'il arrête d'obliger ses équipes à travailler les jours fériés.
Ah ouais.
Voilà.
Je sais vraiment pas de qui il parle, Philippe, mais en tout cas, ça serait dommage de passer à côté.
Merci beaucoup, Jean-Luc. À demain. Je rappelle qu'on vous retrouve chaque jour près d'un autre grand homme dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern.
Excuse-moi, quand vous dites près d'un autre grand homme, le premier grand homme, c'était vous donc?
Non, c'était moi.
Oui, parce que maintenant, c'est plus genré. Justement, Stéphanie Loire, votre programme aujourd'hui.
Bonjour, aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon des albums les plus attendus de 2023. Et ce ne sera pas l'horoscope qui va nous le dicter, c'est bien l'instinct musical.
Merci Stéphanie Loire, on vous écoute dans quelques instants. Jean-Luc, on vous écoute demain. Dans un instant, c'est Patrick Besson qui arrive. On parle de son dernier livre, « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Mais d'abord, musique, Beyoncé sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Patrick Besson.
Bonjour.
Vous êtes romancier, vous êtes essayiste, plus de 80 ouvrages, essais et romans confondus, mais également dans la presse, vous écrivez. Je vous cite, j'ai d'abord écrit dans les journaux pour sortir de chez moi afin d'aller au journal jusqu'à ce que le fax puis le mail m'intiment de rester à la maison derrière un bureau que je n'ai pas. J'ai rarement vu un écrivain aussi prolixe que vous et un auteur. Où écrivez-vous alors?
Sur un canapé, plutôt.
Ouais. Ça avait pas mal au dos. Comment on écrit sur un canapé?
Allongé. Mais Pushkin écrivait sur un canapé allongé, mais en russe.
Oui, mais Pushkin n'avait pas de PC ni de Mac. Vous écrivez sur quoi? Vous écrivez à la main, à l'ancienne?
On peut très bien avoir un Mac et être allongé.
Comment vous écrivez?
Oui, j'écris plutôt à la main parce que, comme je le dis quelque part, elle est chaude. Mm-hmm. Contrairement à l'ordinateur qui est froid.
Donc vous êtes allongé sur le canapé avec une page comme ça devant vous.
Ouais.
Et vous écrivez ce qui vous vient. Ça a son importance. Parce que parfois, on a l'impression qu'on est au fil de la plume et qu'on est dans votre pensée quand on lit vos chroniques dans Le Point.
J'essaie que les phrases que j'écris soient le plus proche possible de ma pensée.
Est-ce que c'est réécrit ou est-ce que c'est un premier jet? Parce que toute l'histoire, tout le talent, c'est de faire croire que c'est un premier jet.
Souvent, ça dure 10 minutes, hein, parce que l'idée sort, et une fois que l'idée est sortie, le système du texte suit, et après le texte déboule. Mais parfois, ça peut être très long. Hein. Parfois, ça peut être... Il peut y avoir plusieurs versions.
Alors, vous publiez, vous tenez toujours votre chronique dans Le Point, c'est chaque semaine. Je vais citer le magazine Playboy, que j'avais déjà cité, mais je n'y renonce pas. Sa page du Point est pour certains le meilleur du magazine. Et justement, votre actu, c'est « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Recueil de vos chroniques du Point, c'est publié chez Albin Michel. Pourquoi ce titre? Avant que vous répondiez, on va entendre un extrait en chanson.
« Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Et leurs baisers au loin, le suivent. »
Chanson de Bernard Lavilliers, est-ce ainsi que les hommes vivent? Évidemment, c'est une reprise de Léo Ferré, qui est elle-même une reprise.
Oui, d'ailleurs, « Et leurs baisers au loin les suivent », ça pourrait aussi être le titre du recueil. Oui.
Voilà. Pourquoi ce poème d'Aragon?
D'abord parce que c'est Aragon, ensuite parce que je trouvais pas de titre. Et quand on trouve pas de titre, c'est très simple, on ouvre un livre de poésie, ce que faisait François Sagan. Et on trouve le titre presque tout de suite. Donc je suis tombé pratiquement, dès que j'ai ouvert le livre d'Aragon, c'est un Pléiade, j'ai trouvé cette phrase que je connaissais, que tout le monde connaît d'ailleurs.
Évidemment.
Bizarrement, hein, c'est une phrase ultra, ultra, ultra célèbre. Mmh. Mais ça décrit un peu le livre, c'est-à-dire que c'est un livre sur la façon dont les gens vivent, qu'ils soient connus, inconnus, qu'ils soient artistes, hommes politiques, guerriers.
Voilà, et que ce soit des hommes ou des femmes.
Amoureux et amoureuses.
500 pages, combien de chroniques et comment avez-vous choisi?
A priori, c'est complet, donc 52 semaines multipliées par 10, c'est-à-dire 520 chroniques.
Donc c'est exhaustif?
Pratiquement, il y en a une. J'ai eu de la chance parce qu'il y en avait une contre Annie Ernaux, mais je l'ai supprimée avant qu'elle ait le prix Nobel.
Pourquoi l'avez-vous supprimée?
Je ne la trouvais pas bonne.
D'accord.
Ça arrive. Hein. Mmh. C'est Wolinski qui me disait quand je trouve pas bon un dessin, j'en refais un autre.
Mais là, vous n'avez pas fait une autre chronique. Vous avez supprimé cette chronique. Vous avez beaucoup relu ou pas du tout? Est-ce que vous avez enlevé des passages, que vous avez fait des mises à jour?
Oui, quelques-unes. Oui, des fois, on se trompe. Hein. On va trop vite. Des fois, on ne devrait pas écrire ce qu'on écrit.
Par exemple, est-ce que vous
avez... Les intellectuels ont beaucoup de mal avec la critique et surtout l'autocritique. Ils ont l'impression que dès que une phrase est sortie de leur cerveau, et elle est immuable et immortelle et inchangeable.
Est-ce que vous avez fait attention aux prophéties? On parlait avec Jean-Luc Lemoyne des... C'est, vous connaissez la phrase de Jacques Chirac sur les prévisions?
Non.
Les prévisions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Et est-ce que vous avez dit, est-ce que vous avez déjà écrit quelque chose, Emmanuel Macron n'a aucune chance et vous l'avez retiré?
Non, mais le livre se termine avec, je demande gentiment, parce que c'est pas un livre méchant, j'essaie d'être drôle, moqueur, mais pas méchant. Ça se termine par une demande de démission d'Emmanuel Macron. Ouais.
Je suis pas d'accord
parce
avec vous.
Parce que depuis qu'il est là, ça merde. C'est peut-être pas forcément de sa faute, mais alors... J'écoutais les informations tout à l'heure dans le taxi, je voyais qu'une seule solution pour les Français, c'est le suicide collectif.
Mais oui, mais bad news is good news. Les infos, c'est quand ça va pas. Sinon, c'est pas intéressant, c'est pas les infos. Mais je suis pas d'accord avec vous. Je vais vous faire un compliment. C'est un livre méchant, mais ce qu'il a d'absolument formidable, c'est qu'il est généreux et que ce livre n'est pas aigre. Un chapitre et... Juste un mot, pourquoi il n'y a pas les dates?
Moi, je pense à mon lecteur albanais de l'an 3000. Qu'est-ce qu'il peut en avoir à faire des dates? C'est pour lui, ce sera du passé, donc quelle que soit la date.
Ah, vous écrivez pour les gens de l'an 3000?
Vous écrivez
pour
tout le monde.
Vous écrivez, je pensais que vous écriviez pour le petit chroniqueur radio qui lit votre livre et qui en parle et qui vous invite.
Mais vous êtes aussi un albanais de l'an 3000.
On verra. Culture Média continue. Patrick Besson est avec nous et sa verve avec. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Patrick Besson, l'écrivain qui signe un recueil de ses chroniques dans Le Point. 10 ans de chroniques dans Le Point. C'est presque une liste exhaustive. C'est publié par Albin Michel. Le titre « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Il y a plusieurs chapitres, évidemment. Il y en a presque 500. Un chapitre est consacré. Il s'appelle ainsi « Polémique du moment ». Ça démarre comme ça. La principale spécialité culinaire française n'est ni la poule au pot, ni le pot au feu, mais la polémique, on se vomit dessus. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Comment est née cette chronique?
Je revenais de Thaïlande où j'avais passé des jours paisibles et ensoleillés. Et à l'aéroport, je prends la presse et en effet, je tombe tout d'un coup dans un cloaque, une suite d'engueulades, d'admonestations, d'injures, d'insultes. C'est vraiment très, très tendu, les rapports entre les gens dans ce pays, peut-être dans toute l'Europe, mais il me semble que c'est moins tendu dans les autres pays européens.
Mais ce n'était pas comme ça avant déjà? Je croyais que le goût de la polémique, c'était un goût très, très français, sans remonter au 18e ou au 19e, début du siècle dernier.
Tout ce qui précède la révolution de 1789, c'est une suite de pamphlets, mais d'un parfaitement ordurier, et... infernaux et infâmes contre cette pauvre Marie-Antoinette. Je suis sûr que s'il n'y avait pas eu tous ces pamphlets, on ne lui aurait pas coupé la tête.
Possible.
L'insulte précède le génocide.
Vous posez des questions qui font vraiment réfléchir. Par exemple, celle-ci qu'on peut croire comme étant une boutade, mais qui ne l'est pas, puisqu'il y a une recension extrêmement précise. Question, les jurés du prix Nobel sont-ils homophobes? Et vous relevez tous les récipiendaires du prix Nobel de littérature, les Français. Il y a beaucoup, beaucoup de grands écrivains français qui étaient homosexuels. Aucun n'a jamais eu le prix Nobel.
Ouais, sauf Gide. Mais enfin, bon, les Scandinaves lui ont pardonné parce qu'il s'est quand même donné la peine de faire un enfant.
Ouais. Mais qu'est-ce que ça dit? Vous dites, les Français célébrés à Stockholm furent tous hétérosexuels, pardon, Modiano, Leclésio, Simon, Sartre, Camus, Mauriac, Martin Dugard.
Oui, alors que Jean Genet, Jouandeau, Violette-le-Duc, un certain nombre de...
Proust,
tout ça, pas eu le Nobel. Oui. Non, mais c'est un
est-ce
peu...
Est-ce que ça veut dire quelque chose ou est-ce que c'est une boutade?
Non, ça ne veut rien dire.
Donc je me suis fait avoir.
Non, mais je n'ai pas une tendresse particulière pour le prix Nobel. La seule qualité qu'il a, c'est qu'il couronne souvent des Français. Et ça, c'est parce qu'il y a une vieille tradition francophone en Suède. Je le sais parce que ma deuxième femme est suédoise. Enfin, était. Elle est toujours.
Ouais, elle est toujours, mais c'est plus votre femme.
Voilà.
C'est une phrase difficile.
C'est difficile à mettre en place.
Difficile à dire. Ouais. Page 154, le chapitre, c'est autocritique. Vous prenez la défense d'un roman. Ce roman s'appelle La mémoire de Clara. et il est de vous. Ça commence comme ça. Vu le contenu de mon dernier roman, La mémoire de Clara, on a trouvé pour en parler dans Le Point qu'une seule personne, moi. Et puis vous ajoutez, dans un sens ça tombe bien, La mémoire de Clara est l'un des rares livres de la rentrée littéraire que j'ai réussi à lire jusqu'au bout.
Oui, parce que j'aime beaucoup ce livre, c'est normal du fait que je l'ai écrit, donc je l'ai écrit en quelque sorte à mon goût. Mais je pense qu'on écrit aussi pour avoir quelque chose à lire, puisque souvent on ne trouve pas de livres qui vous correspondent, alors que si on le fait soi-même... il nous correspond forcément et donc c'est toujours un plaisir de lire un livre qui vous ressemble.
Il vous arrive de relire vos livres?
Ah oui, ça m'arrive. Quand j'ai rien à lire, oui, à chaque fois, je trouve ça un peu mieux que la dernière fois. Ouais.
Et vous remontez jusqu'à quelle époque ? Est-ce que vous remontez, est-ce que vous avez encore le souvenir de l'écriture ou est-ce que vous redécouvrez ce que vous avez écrit ?
Oui, parce que ce qui est agréable, c'est que j'ai peu de mémoire. Je suis hypomnésique, donc je peux me relire sans fin. Mais je peux aussi relire les autres sans fin. Il y a beaucoup d'écrivains que je lis. Les livres de Modiano, par exemple, je les ai tous lus 4 ou 5 fois et je ne me souviens toujours pas de l'intrigue. Il
Bien
va
sûr.
Falloir que je recommence.
Mais ça, c'est un classique. Mais je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends un écrivain qui dit « j'aime bien mes livres et j'aime bien les réécrire ». La plupart des musiciens, des chanteurs, des chanteuses qu'on reçoit ici détestent réécouter leurs disques.
Mais parce qu'ils mentent. Ben oui, bien sûr qu'ils aiment écouter leurs disques.
Vous pensez ça ?
Mais ils veulent pas avoir l'air d'aimer ce qu'ils font.
Vous écrivez aussi ceci. Je pense depuis longtemps que les livres, à l'instar des films et des journaux, devraient avoir 5 ou 6 auteurs. Un pour l'intrigue, un autre pour les dialogues, un troisième pour les descriptions et 1 ou 2 pour parler du livre à la radio et à la télévision. Les ouvrages seraient meilleurs et donc se vendraient mieux. Ça a l'air d'être une boutade, mais c'est comme ça qu'on fait un film. Jamais un film n'est fait tout seul. Il y a des scénaristes, il y a des producteurs, il y a des réalisateurs. On revoit, on refait le montage. L'un revoit le travail de l'autre.
C'est aussi pour ça que le cinéma est peut-être moins important que la littérature. On n'imagine pas Proust avec un type qui lui ferait les descriptions, par exemple. Mais il y a un écrivain qui s'appelait Maurice Druon qui a écrit et il avait fondé un atelier avec Edmond Charleroux, José-André Lacour, Georges Kessel.
C'est pas vrai.
Et c'est comme ça qu'ils ont créé Les Rois Maudits. Mais l'atelier a disparu des rééditions successives. Donc Maurice Druon apparaît seul auteur, alors qu'en réalité, sur les premières éditions des Rois Maudits, vous avez le nom de tous les participants au texte.
C'est incroyable ce que vous dites, parce que vous savez ce que c'est devenu Les Rois Maudits ? C'est devenu une série réalisée par Claude Barma, le papa de Catherine Barma. Série qui a été vue par un auteur qui en a fait Game of Thrones, qui est maintenant la série peut-être la plus vue dans le monde.
Ouais, ouais.
Et donc tout est parti d'un atelier d'écriture.
Voilà.
Incroyable.
Mais ça n'a pas été... normalement, souvent, ce n'est pas du tout l'auteur du livre qui a écrit le livre. Hein. C'est son écrivain fantôme. On disait nègre avant, mais c'est The Ghostwriter.
Ça existe encore ?
Mais il n'y a pas d'atelier pour faire un roman.
Vous êtes un grand connaisseur du milieu de l'édition, Patrick Besson. Je savais évidemment qu'il y a des ghostwriters, mais je croyais que c'était que pour les essais, par exemple les livres d'hommes politiques ou une thèse, mais pas les romans. Il y a des romanciers qui font écrire leurs romans par quelqu'un d'autre ?
Oui, mais je ne balancerai pas.
Je m'en doutais, mais c'est très très rare ou c'est courant ?
Non, c'est pas si courant que ça, mais il y a des gens, effectivement, on se demande quand ils ont pu écrire un roman alors qu'ils travaillent à la radio, qu'ils travaillent à la télévision, qu'ils font un reportage dans le monde entier et puis qu'ils sortent des livres régulièrement.
Ouais. Vous connaissez le fantasme de
Bernard Pivot ? En général, les gens qui n'écrivent pas leurs livres disent qu'ils écrivent la nuit.
Ouais.
La nuit, personne ne regarde.
Vous connaissez le fantasme de Bernard Pivot ? Je peux le dire ici parce qu'il l'avait dit publiquement. C'était une interview de Paul Lussulitzer par PPDA. Quelqu'un qui n'a pas écrit un livre interrogé par quelqu'un qui ne l'a pas lu. Voilà, c'était ma petite...
Ce que disait la femme polonaise de Paul Lussulitzer qui avait une petite idée de la littérature. Elle dit c'est bizarre pour un écrivain, je ne le vois jamais écrire.
On n'est jamais trahi que par les siens. Vous restez avec nous, Patrick Besson. On marque une pause. On va parler musique avec Stéphanie Loire. A tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Avec Patrick Besson, est-ce ainsi que les hommes vivent ? Il l'a piqué dans un recueil de poèmes d'Aragon et non pas en écoutant Léo Ferré. Vous écoutez quoi comme musique, Patrick Besson ?
Pas grand-chose, mais Stéphane Escher, beaucoup. Benjamin Biolay, j'aime bien. Et puis, je ne suis pas à Mozart, genre.
Ah oui, essentiellement des voix masculines, des musiciens.
C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire Mozart, genre. Stéphanie Loire, rebonjour.
Bonjour à tous, bonjour Patrick.
On va parler l'année 2023 en musique qui s'annonce riche en sortie d'albums et vous nous proposez déjà un petit tour d'horizon.
Tout à fait. Ensuite, à vous de piocher là où bon vous semblera, c'est à la carte. Alors, si vous êtes amateur de rock et que vous avez la conviction que les ambassadeurs contemporains du genre sont italiens, vous êtes impatient d'accueillir l'album des vainqueurs de l'Eurovision 2021. C'est le groupe Maneskin.
Vous souvenez d'eux ?
J'ai pas la télévision.
Vous n'avez pas suivi cette polémique, vous qui suivez les polémiques ? Non, on avait dit que le type, on avait dit que le type avait peut-être mis de la farine bien blanche dans ses narines pendant le soir
devant
de la compétition,
devant les caméras.
Non, non.
Il y a une enquête, ils ont gagné et ce sont de très très bons musiciens.
C'est vrai.
Des bêtes de scène qui sont vraiment prodigieux. Ils ont un look diablement sexy, ce qui ne gâche rien. Ils ont fait les premières parties de Rolling Stones. Ils se sont forgés un nom sur la scène internationale. Ils continuent de produire un rock fiévreux. Attention, Patrick, je parle de la fièvre, celle que le rock peut donner, pas celle de la grippe ou du Covid. Sur cet album intitulé Rush, apparaître le 20 janvier prochain, le tube en puissance Mamma Mia.
Ils sont énervés, c'est pas très italien. Hein.
Et c'est, bah, pourtant, ils chantent en italien.
Je sais.
Mais bah, ils sont énervés, mais comme on peut être bien énervé dans le rock et faire du bon rock, je trouve. On attend le prochain single qui sera une collaboration cette fois avec Tom Morello, guitariste de Rage Against the Machine. Ça promet d'être bien vénère. Et ce sera pour le 13 janvier en guise de mise en bouche en attendant l'album.
J'adorais ce groupe Rage Against the Machine. Donc Maneskin s'appelle Rush. Ça sort le 20 janvier. Autre album attendu cette année.
Alors, celui de la formation iconique de Damon Albarn et Jamie Hewlett, c'est Gorillaz. Mmh. Le groupe va publier Cracker Island. Ce sera leur 8e album. Il va sortir le 24 février prochain. Comme à son habitude, Gorillaz s'offre des collaborations grand luxe. À savoir, entre autres, le rappeur portoricain Bad Bunny, dont vous êtes très fan, Patrick Besson, bien sûr. L'américaine Stevie Nicks, pas du tout, je vous ai
Stevie Nicks, il connaît peut-être. Vous connaissez ou pas?
Stevie Nicks,
elle était dans Fleetwood Mac.
Ah oui, je connais Fleetwood
voilà,
Mac.
On y
je
vient. Sais, voilà. Ou le musicien Beck aussi. D'autres titres de cet album ont déjà été dévoilés, parmi lesquels une pépite qui s'appelle New Gold, dans laquelle Damon Albarn a invité l'orfèvre de la pop Tame Impala et un rappeur qui s'appelle Bootsy Brown. Mélange d'électro, de pop, de hip-hop, de funk, le genre de cocktail qu'on peut consommer le mardi matin en toute tranquillité. Vous irez faire un petit tour sur Cracker Island avec
Gorillaz.
J'aime
bien ça, j'aime bien. On ne sait pas qui chante, on ne sait pas d'où ça vient. À la limite, il pourrait être pas là, Damon Albarn, que ça se ferait. Or, ça se fait s'il est là.
Exactement, c'est la tête pensante. Ouais. L'homme de l'ombre.
C'est le couteau de Jojo, vous connaissez ou pas?
Non.
Vous connaissez le concept du couteau de Jojo?
Non.
Le couteau de Jojo, tu changes la lame, tu remplaces le manche,
ouais.
C'est toujours le couteau de Jojo.
Voilà, quel que soit le manche.
Et la lame.
Ah non, ah oui, même si on change la lame.
C'est exactement le
principe. J'ai perdu, vous m'avez perdu sur Jojo là, totalement perdu. Ça vous dit qu'on revienne à la musique ou on revient sur le couteau de Jojo?
Bien sûr, bien sûr.
Gorillaz.
Non, pour dire que ce Damon Albarn était un couteau suisse, voilà.
Tout à fait, quel que soit le manche et quelle que soit la lame.
Cracker Island de Gorillaz, c'est le 24 février. Et quoi d'autre en 2023?
En 2023, filou, oui, parce qu'en 2023, je vais vous donner des petits noms. On va écouter la voix suave de Lana Del Rey, qui est de retour le 10 mars prochain avec un album intitulé, attention, ça va être très très long, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. L'unique titre déjà sorti sur cet album est vaporeux et mélancolique à l'image de cet artiste. On en écoute un extrait. When's it gonna be my turn? Don't forget me. When's it gonna be my turn? Open me. Tell me you like me. Fuck me to death. Love me until I love myself. There's a tunnel under Ocean Boulevard. Alors, je précise qu'on entend Lana Del Rey et que Patrick Besson a cru que c'était Céline Dion.
Franchement, c'est les deux mêmes voix, non?
Non, non, c'était une blague.
Ah, mais on partage tout sur cette antenne, vous savez. Donc, il s'agira du 9e album de Lana Del Rey et sur les collaborations attendues, on retrouvera notamment le jazzman John Batiste.
Lui, je ne le connaissais pas. 2023, me dites-vous, sera métal avec Metallica.
Ouais, le plus grand groupe de métal de tous les temps va sortir un nouvel album intitulé 72 Seasons. Le quatuor formé en 1981. Ils en ont encore un sous le pied. Ils ont décidé de nous le démontrer, Metallica, notamment sur scène au Stade de France les 17 et 19 mai 2023. Le premier single extrait de cet album, c'est Lux Eterna. Personne n'a fait de air batterie dans ce studio, je suis un petit peu déçue.
Non, mais vous avez fait du headbanging.
Oui, c'est vrai.
Hein, j'ai vu ça.
Vous êtes observateur, merci Philippe. Je précise que pour les deux concerts que vont donner Metallica au Stade de France, ils ont promis que les deux setlist seront totalement différentes. Il n'y aura aucun titre en commun. Donc si
génial.
Vous êtes très très fan, si vous êtes en bon terme avec votre banquier, bien sûr, il faut vous offrir deux places, vous pouvez assister à deux spectacles totalement différents.
Donc 72, 72 saisons, l'album de Metallica, ça sort le 14 avril. Et qui d'autre encore? Parce que vous en avez des retours musicaux.
Oh, ça n'a... Et pourtant, cette liste, j'ai dû faire des coupes. Hein. Ils sont nombreux, on attend l'album Memento Mori de Depeche Mode, qui a quand même perdu l'un de ses membres fondateurs en mai dernier, Andy Fletcher, mais qui persiste sur un album et une tournée. Et puis on espère celui de Rihanna, qui n'a rien publié depuis 6 ans, hormis 2 titres pour la bande originale du film Black Panther. Et puisqu'elle va participer au show de la mi-temps du Super Bowl le 12 février prochain, on espère un retour de Rihanna.
Ah oui.
Je tiens à rendre hommage à Fred White, oui, batteur du groupe légendaire Earth, Wind and Fire, qui vient de nous quitter,
oh non,
à l'âge de 67 ans. C'était le frère de Maurice White, le fondateur de ce groupe génial qui donne de l'appétit pour l'existence.
La Besson dit, ça je connais. Tu sens le night fever.
On a récupéré Patrick Besson.
J'en ai eu un.
Merci Stéphanie, on vous retrouve les samedis et les dimanches de 16h à 17h dans Musique sur Europe 1 et ici dès demain matin.
Bien sûr, à demain.
On est trop contents. Culture Média continue, Patrick Besson reste avec nous, à tout de suite, on va ranger les platines.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Philippe Vandel.
En compagnie de Patrick Besson, Est-ce ainsi que les hommes vivent? C'est une somme de réflexion, c'est une somme de chronique, il y a de la grande histoire, de la petite histoire, des sujets légers, des sujets profonds. J'ai trouvé cette analyse de mai 68, j'avais jamais vu les choses pareillement, j'ai pas vécu mai 68, évidemment. On aurait, en mai 68, dites-vous, libéré la parole. Or, tous les documents montrent au contraire que la moindre phrase allant à l'encontre des dogmes politiques de l'époque était aussitôt interdite. Jamais les étudiants ne se sont fait autant engueuler dans l'enceinte de la Sorbonne par d'autres étudiants.
Oui.
Et j'avais jamais vu les choses sous cet angle. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé?
Oui, et en plus, c'était sur des points politiques qui nous paraissent aujourd'hui complètement obsolètes. Quoi. C'était les trotskistes qui se disputaient avec les Mao, qui se disputaient avec les jeunesses communistes sur des points de détail, des points de texte. Si Marx avait dit ça et si Trotsky l'avait écrit et si Lénine était d'accord avec Trotsky à ce moment-là, enfin c'était... Et quiconque était un peu en dehors de ces polémiques et essayait de ramener le débat dans des frontières nationales et dans le présent et dans ce qui se déroulait, cela était vraiment pris à partie. Mais le plus bel exemple, c'est que les deux personnages importants, les intellectuels importants de l'époque, qui sont Sartre et Aragon, se sont fait huer. Et comme je l'écris dans mon livre, Françoise Sagan, qui était pourtant très favorable aux étudiants, elle n'emmenait pas large dans sa Maserati.
Oui, bah c'est normal, la Maserati, ça faisait d'elle une ennemie de classe. Et Sartre et Aragon, puisque vous les citez, c'était peut-être autre chose, c'était agiste. C'est qu'on disait, ne fais jamais confiance à un type de plus de 30 ans. Il y avait peut-être ça aussi, c'était qu'on...
Oui, mais c'était pas que des types de plus de 30 ans, c'était aussi les plus grands écrivains de leur époque.
Oui, mais ce n'était pas vu comme tel. Les surréalistes ont tout balayé. Est-ce que ce n'est pas un classique, ça? Que la nouvelle génération balaye les anciens?
Oui, bien sûr, mais en l'occurrence, ce n'était pas les balayer, c'était les insulter. C'est deux choses différentes.
On est bien d'accord. Il y a aussi une analyse du succès du one-man show humoristique. Dans ce livre, vous faites l'éloge de l'humoriste Gaspard Proust, qu'on a reçu ici et qu'on entend tous les mardis, je crois, de mémoire sur Europe 1. Mais vous dites ceci: quoi de mieux financièrement qu'un one-man show? On ne partage la recette ni avec un acteur, ni avec un auteur. Hugo et Shakespeare sont devenus injouables au XXIe siècle. Pourquoi? Par la faute d'abus de personnages entre 15 et 30 pour chaque pièce.
Mais dans les théâtres nationaux, on peut,
voilà,
éventuellement...
On peut encore, mais maintenant, c'est pour ça que ça ne se joue plus.
Mais surtout, dans ce texte sur Gaspard, c'est qu'en effet, moi, je suis allé voir son spectacle, qui est formidable, mais il s'en prend à un certain nombre de dogmes modernes dont je fais la liste, et dont il fait lui-même la liste dans son spectacle, sans en avoir les répercussions. Je veux dire que... Il y a un certain nombre d'intellectuels ou de fantaisistes qui, quand ils abordent certains sujets, sont mis un peu au pilori. Quoi. Mmh. Alors que lui, qui les aborde avec autant de violence, et il est aimé des gens qu'il critique. Ce qui est peut-être le comble du talent, d'ailleurs.
C'est ce que vous aimeriez avoir pour vous, Patrick Besson?
Oui, bien sûr. Moi, j'écris pas pour que les gens soient fâchés contre moi, j'écris pour qu'ils rient d'eux-mêmes.
Vous avez, on en parlera après, mais vous avez décidé de réduire la liste de vos ennemis. Alors, il y a aussi...
C'est impossible.
Vous consacrez un chapitre au foot. Comment vous avez vécu cette Coupe du Monde? Parce que je sais que par ailleurs, vous êtes, c'est ça qui est extraordinaire chez un type comme vous, c'est que vous êtes fan de grande littérature. Vous relevez des petites erreurs de répétition chez Proust. Et en même temps, vous ne ratez pas un match de la Coupe du Monde.
Oui, non, mais dans Flaubert aussi, il y a un O-O. A-U, plus loin, H-O-T. H-A-U-T, je me suis demandé comment Flaubert avait laissé passer un truc par là. O-O.
Et c'est vous qui l'avez relevé?
Bah oui.
Ou c'était, ou c'est dans, parce qu'il y a des listes parfois d'erreurs commises par les uns et par les autres.
Non, je ne sais pas dans quoi c'est, ça doit être dans l'éducation sentimentale, mais je retrouverai le O-O.
Le foot, il y a deux O aussi dans foot. Comment vous avez vécu cette Coupe du Monde?
Bah, moi, je n'ai pas de télévision, donc quand je veux voir un match, je suis obligé d'aller dans les cafés de mon quartier, c'est-à-dire les Abbesses et Pigalle. Et là, en effet, dans un café sur deux, vous avez un écran de télévision qui passe le film, surtout pendant la Coupe du Monde.
Ouais. Et alors, c'est comment? Qu'est-ce que ça change?
Bah, je ne sais pas, parce que en fait, je dois être comme beaucoup de gens, je ne vais jamais voir les films, les matchs dehors. Quoi. Mmh. Je ne vais jamais à Coubertin. Je ne vais jamais dans les... Je vois pas les matchs de foot, quoi.
Je souris parce que vous dites je vais jamais à Coubertin. Coubertin, c'est le tennis.
C'est le tennis, oui. Parce que j'ai fait du tennis, mais pas du football. Mais j'ai écrit un roman sur le foot qui s'appelait Le milieu de terrain. Il y avait un jeu de mots dans le titre, mais personne ne l'a relevé.
Ouais. Et puis, j'ai pas lu tous vos romans. Il y en a combien?
Les romans, il y en a pas. Il y en a une trentaine. Enfin, voilà. Depuis 1974, donc c'est pas une moyenne trop élevée.
Ouais. Philippe Besson, vous avez allumé dans Marianne en 2009. Philippe Besson écrit beaucoup trop. C'est pas pour reciter ce qu'il avait dit, mais vous faites une page, une recension de tous les Bessons. Pourquoi ça vous intéresse de regarder? Parce qu'il y a Patrick Besson, il y avait Éric Besson qui a été ministre, il y a Colette Besson qui courait en 400 mètres. En quoi c'est intéressant?
Non, parce qu'avant, il y avait plein de Dupont. Il n'y a plus de Dupont, ils ont laissé la place aux Bessons. Alors, à chaque fois qu'il y a... D'ailleurs, je raconte que je vais dans un cocktail, le cocktail du 1, et je regarde la liste des invités. Et en effet, il y avait encore un autre Besson. Partout où je vais, il y a un Besson qui est pas loin. Voilà.
Donc, pourquoi ça vous énerve?
Parce qu'il y a une multiplication des Bessons. Bah,
j'ai mal posé ma question. Pourquoi
s'il y avait un Jean-Charles Vandel et un Marcel Vandel...
Il y en a, ils sont dans le Jura, ils font des skis Vandel. Et je ne les connais pas. Ma question, c'est pourquoi ça fait un sujet? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. En quoi c'est un sujet intéressant?
Parce que c'est comique. C'est quelqu'un qui a son nom et il doit tout d'un coup partager son nom avec un tas de gens qu'il ne connaît pas et qu'il n'apprécie pas forcément. Donc, ça a un aspect rigolo, humain, comique. Quoi.
Voilà, vous marquez peut-être que Jean ferait ça. Pourquoi je dis ça? C'est pour faire un lien avec le titre que vous avez choisi. On vous a demandé quel titre vous aimeriez entendre. Vous parlez de Stéphane Echer tout à l'heure avec Stéphanie Loire. Je ne connais pas ce titre de Stéphane Echer. Il s'appelle...
Tu ne me dois rien.
Tu ne me dois rien ou Tu me dois rien. Stéphane Echer, choisi par Patrick Besson dans Culture Média. A tout de suite. Tu ne me dois rien, Stéphane Echer, c'était sur l'album Engelberg en 91. Pourquoi ce titre vous touche, Patrick Besson?
Parce que c'est l'histoire d'un homme quitté, mais le texte est formidable parce qu'il est à la fois très intime, mystérieux, et en même temps presque abstrait.
Ça fait
Jean est un très grand auteur de chansons.
Très grand auteur de
chansons. Il a fait beaucoup de romans que j'ai aimé, mais
on est d'accord.
C'est un très grand auteur de chansons.
On est d'accord. Ça fait lien avec votre dernier livre, Un homme quitté.
Voilà, ouais, c'était un peu ça. Ouais.
C'est ce qui vous est arrivé, c'est ce que vous avez raconté.
C'est arrivé à plein de gens.
Non, mais ma question, c'était, ça vous est arrivé à vous?
Ah, mais ça m'est arrivé plusieurs fois.
Voilà. Dans l'année, j'ai vu cette phrase que vous êtes confidente, vous avez faite à Jean-René Van der Platzen, c'est dans le Figaro le 14 octobre dernier. Il écrit ceci: « Besson l'avoue avec une sincérité sans précaution, un soir dans un restaurant chinois de son quartier à Montmartre, lorsque ma femme est partie, j'ai compris que j'avais le choix entre mourir ou tout dire dans un livre, et c'est dans ce livre publié chez Grasset, contrairement à ce livre-là. » Faisiez quoi dans les années 80?
La même chose qu'aujourd'hui, je crois. J'ai l'impression de vivre toujours la même journée, moi.
On a une question. Un de vos confrères, compère, Éric Neuhoff, que vous connaissez bien, a une question pour vous, Patrick Besson.
Cher Patrick, est-ce que tu pourrais me dire ce qu'on a fait exactement pendant les années 80? Ça m'arrangerait.
Non, parce qu'on a eu le même problème dans les années 80, en fait.
C'est-à-dire, c'est quoi le problème?
On n'a pas dessoulé.
Je m'attendais pas à ça.
De 80 à 90, tous les deux, on ne se souvient pas bien de... Moi, c'est là où j'ai écrit, mais pas mes meilleurs livres, j'en sais rien, mais en tout cas, mes livres qui ont le mieux marché ont été écrits dans les années 80, donc je ne sais pas du tout comment j'ai fait, donc je n'arrive pas à reproduire la recette miracle, une best-seller. Et après, on a arrêté. Hein. Mmh. On a compris en 90, on s'est regardé, on s'est dit, bon, allez. Il y a une nouvelle de Fitzgerald, comme ça, qui s'appelle la décade perdue. C'est, on demande à un jeune stagiaire d'accompagner un écrivain vieillissant dans les rues. Et puis, il voit que l'écrivain regarde les voitures et les coupes de cheveux. Il fait des remarques sur la mode. Et il se dit, il sort de prison. Il a été en prison à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a? Et tout d'un coup, l'autre lui dit, mais non, c'est pas ça. Mais j'ai été sous pendant 10 ans.
Wow.
Donc pendant 10 ans, il n'a pas vu les voitures, il n'a pas vu les femmes, il n'a pas vu les vêtements, il n'a pas vu les livres dans les librairies, il n'a rien vu, quoi. Et donc c'était un peu notre cas.
Extraordinaire. Vous avez souvent critiqué les prix littéraires, Patrick Besson, puis ça fait partie de la tradition française. Désormais, vous êtes juré littéraire, c'est au Renaudot. Et vous dites que vous êtes l'écrivain qui a le plus raté le Goncourt. Vous avez fait une croix dessus?
Bah oui, de toute façon, une fois qu'on siège dans un jury important, on peut plus avoir le prix Goncourt. Ils ont appelé ça la jurisprudence Besson.
Ouais.
Parce que ça m'est arrivé en 2009 où j'étais dans la course avec mon roman africain, Putain, je ne me souviens plus du titre.
Il ne se souvient même plus du titre. J'ai la liste de vos livres, donc je vais trouver le nom du livre. Racontez ce qui s'est passé et je vais trouver le titre. Allez-y.
Et donc, il était question que j'ai le prix, mais ça n'a pas été possible parce que je siégeais au prix Renaudot. Mais le fleuve tuera l'homme blanc, voilà.
Voilà. Et l'Académie française, vous brillez toujours un fauteuil ou pas? Vous avez fait une croix dessus?
Non, pas pour l'instant. Non. C'est un peu compliqué parce qu'on doit demander de l'argent à ses amis pour qu'ils vous payent. Voilà, et moi j'ai du mal à demander de l'argent et surtout à mes amis.
Voilà, vous avez vu que Frédéric Becbédé a fait un tour de piste là.
Oui, j'ai vu, il pensait être élu d'ailleurs, hein. Ouais. Il m'a étonné, mais je pense que je le connais Frédéric, il est très acharné, têtu et il n'en restera pas là.
Il y a une dizaine d'années, vous étiez promis de réduire le nombre de vos ennemis. Est-ce que vous y êtes parvenu, Patrick Besson?
Ouais.
Il se gratte l'oreille, il est gêné.
Je n'ai pas d'ennemis, quand j'en vois un, je le supprime. Mais je ne peux pas dire de qui est cette phrase.
Je veux dire Himmler, Göring, Staline.
Le premier. Bravo. Himmler. Quelle culture nazie.
C'est un hasard. C'est pas très dur à trouver. Hein. Patrick Besson et son humour et sa générosité. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce ainsi que les hommes vivent? C'est publié chez Albin Michel. Merci encore et merci pour ce titre de Stéphane Escher. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec une émission consacrée à l'évolution du plaisir féminin. Ça s'appelle Tout le plaisir est pour elle. Avez-vous fait Julia?
Non, c'est Mélanie.
C'est Mélanie qui a fait ce son-là. Nous serons avec la réalisatrice Sarah Fournier et puis le plus grand compositeur français de musique de film actuellement, c'est Alexandre Desplat pour la BO du film Tirailleurs avec Omar Sy qui fait beaucoup parler mais pour d'autres raisons. On est encore dans la polémique mais ça ne sera pas notre sujet du jour. Juste après le flash, on a entendu un son de vous, Julia Vignali, Mélanie Gomez. L'émission s'est bien fait pour vous. Quel est votre programme du jour? Et d'abord, je vous salue.
Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, on va vous proposer un focus plus que nécessaire pour bien démarrer 2023. On va vous poser cette question. Est-ce que vous dormez bien? Vous dormez bien, Patrick Besson?
Ah, très très bien. Oui.
Bon, alors c'est pas pour vous.
Moi aussi, comme un bébé.
C'est vrai,
comme
combien d'heures par nuit?
2 heures de sieste et je m'endors à 11h et mon réveil sonne à 5h30.
C'est pas mal, hein, je pense que c'est un bon quota. Hein, c'est ça, on va faire le point justement sur la durée optimale. Est-ce que faire la sieste, c'est bien? C'est quoi une bonne sieste?
Tout j'espère ça que c'est bien parce que
santé.
J'en fais une tous les jours.
Bon. C'est ça.
Et puis on va aussi parler de tous ceux qui se mettent au régime et qui sont invités, les bonnes manières. Comment être invité chez quelqu'un et refuser de manger? Voilà, c'est pas évident. Donc on en parlera avec notre spécialiste des bonnes manières.
Oui, combien de régimes vous avez déjà tenté? Le nombre de fois où je l'ai vu décrire son embonpoint, une fois il est maigre, une fois il est moins maigre, une fois il est rond, une fois il est moins rond.
Non, mais il s'agit de... En fait, Émile Zola, il avait trouvé comme moyen de jamais boire pendant le repas. Et il a perdu 20 kilos. Il faut dire aussi qu'il s'était mis au vélo et qu'il avait une maîtresse.
Ah, oui, ça peut aider peut-être aussi.
Surtout la maîtresse, je pense. Et puis, je ne sais pas si vous...
C'était une lingère.
Ah d'accord. Je ne sais pas. Alors, Émile Zola ne devait pas boire du collagène parce que ça n'était pas à la mode à l'époque. Mmh. Mais en tout cas, on va faire le tour de cette nouvelle tendance avec Benjamin Lévesque.
Quel plaisir. On vous écoute et moi je vous dis à demain. Je dis encore salut, merci et bravo Patrick Besson. Merci.